30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. RFI vous donne la parole sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine, des sujets qui font la une, des journaux, des sujets dont on ne parle peu suffisamment. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous lancez le débat, évidemment, en direct sur RFI 33 9 693 693 70 et vous réagissez également sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées en message privé sur la page Facebook de l'émission. Message privé, c'est important. Ça évitera que tout le monde dispose de vos coordonnées personnelles. Vous êtes nombreux, et on en reparlera en début de semaine prochaine, vous êtes nombreux à souhaiter commenter l'avenir judiciaire de l'ancien président guinéen Alpha Condé. Il est accusé d'assassinat, d'actes de torture ou encore d'enlèvement. Il est poursuivi avec 26 anciens hauts responsables de son régime. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs.
Et merci de nous appeler de Kindia. Vous disiez au Standard saluer cette annonce du procureur général.
Oui Juan, vous avez pour moi, ces poursuites sont normales. Il y a eu des répressions sévères à l'occasion des contestations contre le troisième mandat. Allô?
Oui, je vous écoute attentivement. Donc, il y a eu des répressions, violentes répressions lors de ces manifestations de 2019-2020. Donc, vous vous dites que c'est normal aujourd'hui qu'il réponde devant la justice de son pays.
Oui, exactement. Dans tout l'état de droit dont nous voulons être, les crimes sont interdits et punis par la loi, dans lequel toute personne impliquée sera poursuivie et condamnée, quel que soit son statut.
Et vous ne craignez pas qu'on accuse la junte, voire même la justice, de mener une chasse aux sorcières?
Bon, pour cela, pour moi, bon, sûrement il y a certaines qui pensent que c'est une chasse aux sorcières ou bien c'est autre chose. Mais pour cela, il faudrait qu'un tribunal spécial soit créé, mis en place, pour que ce procès soit équitable.
Quand vous dites un tribunal spécial, Mamadou, sans être juriste, hein, moi non plus, je ne suis pas juriste, mais vous dites quoi, un tribunal hybride avec des magistrats, enfin avec des juges guinéens et internationaux, où vous vous dites on peut véritablement faire confiance aux juges guinéens, donc ce sera un tribunal spécial, mais un tribunal guinéen.
Oui, non, un tribunal guinéen collaboré avec des juges internationaux, parce que ici, si nous nous constatons bien, jusqu'à présent, il y a les anciens ministres aussi, ou bien des amis et des alliés aussi qui sont aux commandes de l'État. Donc, pour ce que ce projet soit équitable, il faudrait qu'un tribunal spécial.
Et j'entends bien, je vois où vous voulez en venir. Mamadou, ne raccrochez pas, vous êtes à Kindia, je vous présente Abdoulaye, il est à Conakry. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Monsieur Wan et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous disiez au Standard ne pas être du tout content de ces poursuites contre Alpha Condé.
Vraiment Monsieur Wan, j'ai été déçu, j'ai été estomaqué, j'ai été découragé quand j'ai lu, n'est-ce pas, dans un document rendu public par le procureur général de la Cour d'appel de Conakry qui annonce des poursuites judiciaires contre l'ancien président Monsieur Alpha Condé pour des crimes de sang commis pendant son règne. Vraiment, c'est quelque chose qui est décourageant, c'est choquant. Nous devons ici
Attendez,
avoir...
Attendez, Abdoulaye, pourquoi dites-vous que c'est choquant?
C'est choquant parce que, M. Wan, nous devons ici apprendre à respecter nos anciens dirigeants, surtout les anciens présidents. Poursuivre M. Alpha Condé après tout le bien qu'il a rendu pour ce pays, après tout le service qu'il a fait pour cette nation, le poursuivre à la justice, c'est une honte. C'est une honte, c'est une humiliation, non seulement pour la Guinée et pour les Guinéens, mais aussi pour son honneur en tant qu'ancien chef de l'État.
Alors, pour son honneur, je comprends, j'entends vos arguments, mais il y a eu tout de même des dizaines et des dizaines de victimes lors de ces manifestations contre un troisième mandat d'Alpha Condé.
Bien sûr, il y a eu des tueries, bien sûr, alors, mais sur la liste des poursuivis, Il y a des hauts de son régime, plus lui-même, mais il n'existe aucunement pas le nom des hauts gradés de la gendarmerie, alors de ça, la police, ni de l'armée.
Sur ce point, Abdoulaye, vous avez raison. Effectivement, il y a des anciens ministres, des anciens hauts fonctionnaires et hauts responsables de l'ex-présidence Alpha Condé, mais aucun responsable du service de sécurité, de la police, de la gendarmerie, voire même de l'armée. En même temps, Abdoulaye, vous me direz, en ce moment, ce sont les militaires qui sont au pouvoir.
Bien sûr, c'est ça. Parce que, les hauts gradés de son régime étaient ici, là, en train de... C'était les gens qui étaient censés organiser, n'est-ce pas, mettre de l'ordre dans les manifestations. Ce sont eux qui étaient censés canaliser, n'est-ce pas, des manifestations. Mais aujourd'hui, leur nom ne figure pas sur la liste des poursuivis. Parce que ce sont des gens qui occupent des postes stratégiques en ce moment pendant la transition. Ça, c'est du deux poids deux mesures. C'est de la chasse aux sorcières. C'est des trucs que nous devons bannir dans ce pays pour faire avancer la Guinée.
Bon,
c'est
tout
pas
cas,
normal, Monsieur Wan, vraiment.
En tout cas, rappelez-vous des propos du colonel Doumbouya. Il avait promis qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, mais que la justice serait, je reprends ses propos, la boussole du pays. Abdoulaye, un petit mot de conclusion, parce que je vous entends parler au loin. Vous avez encore envie de prendre la parole?
Vraiment, j'ai envie de parler beaucoup, parce que c'est un sujet qui me choque. Ce que moi, je voulais dire aux Guinéens, c'est d'arrêter, n'est-ce pas, de se faire des comptes. Se rendre des comptes ne signifie à rien. Nous devons ici se donner la main pour faire avancer la Guinée. Nous venons de loin.
Oui,
et le
certains,
chemin à parcourir
certains,
est aussi très long.
Certains vous diront, Abdoulaye, que pour se réconcilier, il faut d'abord se parler, se pardonner, et tout ça passe par la voie judiciaire. Le débat est loin d'être clos. C'est juste un aperçu de ce qui nous attendra certainement lundi matin, puisqu'on consacrera notre débat justement à l'avenir judiciaire du président déchu guinéen, Alpha Condé. La cherté de la vie, vous nous appelez tous les jours. Vous nous envoyez des messages tous les jours pour nous raconter comment vous, auditeurs de RFI, consommateurs, vous gérez la flambée des prix, flambée que nous constatons tous à travers le monde, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est vrai que les prix des produits alimentaires de base augmentent, tout comme les hydrocarbures. Régulièrement, on vous donne la parole sur ce sujet. Alex posait cette semaine une question sur son pays, la Centrafrique, et à la fin de son intervention, il m'a dit « Je veux absolument prendre la parole vendredi dans la Libre Antenne, Monsieur Gomez, donnez-moi la parole, je suis opérateur économique, j'ai des choses à dire. » Alors voilà, j'ai pris l'engagement et Alex est avec nous ce matin. Bonjour Alex.
Oui, bonjour Monsieur Wan.
À Bangui, donc en Centrafrique, vous teniez absolument à dire qu'il n'y avait pas que le prix des denrées alimentaires qui augmente, hein?
Oui, justement, M. Wan, il n'y a pas que le prix des denrées alimentaires qui augmente. Vous comprenez avec moi que lorsque les denrées alimentaires augmentent, logiquement, celui qui fait dans d'autres domaines, logiquement, doit aussi augmenter ses prix pour pouvoir être sur les rails. Parce que si, par exemple, quelqu'un qui fait comme moi dans l'électronique maintient ses prix, pendant qu'il y a la flambée, par exemple, du prix du pétrole, du carburant, des légumes, des denrées alimentaires, des pierres, oui, et que nous, par exemple, qui faisons dans l'électronique, nous maintenons nos prix, on ne pourra plus être à mesure de pouvoir consommer sur le marché alimentaire. Vous voyez? Donc, du coup, on est obligé aussi de légèrement, quoi.
Donc, Alex, si je comprends bien, vous avez une boutique, vous vendez des appareils électroniques, et vous êtes obligé d'augmenter le prix de vos appareils, parce que la vie augmente pour vous également.
Oui, justement, M. Roy, c'est ça, parce que regardez par exemple un exemple. Il y a de cela quelques mois, une bière coûtait 650. Maintenant, la même bière passe de 150 à 950, voire 1000 francs chez certains. Vous voyez? Oui. Bon, moi, par exemple, Alex, après mon boulot, il faudrait bien que je puisse consommer un rafraîchissant. Et bien, avec ce prix. Vous voyez,
oui.
Donc je suis obligé un peu d'augmenter d'une manière un peu légère.
Je vois que vous avez envie de consommer une bière après le boulot, avec modération, faut-il le rappeler, Alex. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement centrafricain a mis en place un programme ou des mesures qui permettent de soulager un peu les consommateurs?
Oui, mais justement, parlons même des mesures pour soulager le consommateur. Regardez par exemple le directeur de la Télé Mokaf. Elle a pris attaque avec le ministère du Commerce pour lui signifier de l'augmentation des prix. Mais le ministère n'a pas informé la population que les prix vont être augmentés à partir de telle date. Vous voyez, depuis le 15 mars, qu'ils ont pris cet arrêté au niveau de la brasserie et ont mis en copie le ministère du Commerce. Mais le ministère du Commerce n'a pas passé le message. Mais aujourd'hui, on se retrouve à payer sur le marché des prix exorbitants sur la bière, par exemple. Vous voyez, c'est pas logique.
Bon, je vois vraiment que vous focalisez sur la bière, Alex. Hein. Je le répète, c'est important, avec modération. La ligne n'était pas très bonne, mais enfin, on a compris un peu votre colère face à la flambée de ces prix et les répercussions dans votre vie quotidienne. Au moment où les prix flambent, il y a peut-être cette décision qui, en tout cas sur le papier, devrait soulager les consommateurs béninois. Bonjour Albert.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Cotonou, où le SMIG a augmenté. En tout cas, l'annonce a été faite cette semaine.
L'annonce a été faite cette semaine sur la base d'une initiative du gouvernement béninois qui a organisé une réunion avec le patronat et les syndicats. C'est une belle initiative qu'il faut saluer, vu les conditions de vie actuelles, la cherté de la vie, et déjà la loi de finances 2022 qui a créé pas mal de tasses. Et la crise ukrainienne qui a fait augmenter les prix des denrées, notamment du pétrole, disons, au plan international. Mmh. Alors, c'est une bonne chose, mais je pense quand même qu'une augmentation de 30% me paraît faible par rapport à la situation actuelle. Je pense qu'on aurait pu aller à 35 à 40% pour aboutir à 60 000 francs CFA.
Oui, parce que là, pour l'instant, le SMIC va passer de 40 000 à 52 000 francs CFA, ce qui fait en euros oui. 61 euros oui. à 79 oui. euros. C'est insuffisant, oui. dites-vous. Il aurait fallu plus. Mais il y a peut-être d'autres mesures prises en parallèle aussi pour aider les consommateurs. Et pour vous aider, par ricochet, Albert.
Oui, il y a la mesure liée à l'obligation qui sera faite maintenant à tout employeur, aux employeurs en général, de faire souscrire l'assurance sanitaire à leurs employés, ce qui est un changement majeur, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il faudrait que le patron de l'entreprise souscrive une assurance santé à chaque employé, donc c'est pas mal comme décision. Mais aussi, l'autre bémol que je trouve, c'est que même à 52%, il faudrait que ça soit appliqué tout de suite. Parce qu'il semble que nous risquons d'aller jusqu'en novembre avant que l'application ne soit une réalité.
J'ai cru comprendre effectivement que l'augmentation du SMIC sera effective au mois de novembre. Donc d'ici là, il va falloir que les consommateurs se serrent davantage la ceinture. Et quand on parle du SMIC, c'est vraiment le salaire minimum. Donc ce sont, on va dire, les familles les plus qui sont le plus dans le besoin, les ménages les plus précaires, effectivement.
Tout à fait. Bon. C'est cela. Donc c'est ça le problème.
Merci Albert de nous avoir interpellé sur ce sujet et on continuera bien évidemment toutes les semaines à vous donner la parole sur la flambée des prix. Alpha nous rejoint, il est à Ouagadougou, Burkina Faso. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale.
Vous profitez de la libre antenne pour nous interpeller sur le sort de 8 mineurs qui sont coincés depuis maintenant 3 semaines à 700 mètres de profondeur dans des galeries. C'est une situation qui émeut tout le pays, tout le Burkina Faso, qui évidemment croise les doigts pour espérer que ces 8 mineurs soient encore en vie. En tout cas, il y a des opérations de sauvetage qui sont en cours et vous souhaitiez justement nous en parler, Alpha.
Oui, dans la douleur, dans l'attente et dans la pression, parce que nous restons associés à les familles de ces huit frères, de ces huit concitoyens qui sont rentrés tout simplement pour travailler, pour chercher un gagne-pain. Avec ce chômage-là, les gens font le risque. Mais il va falloir qu'on soit conscient dans ce que nous faisons. Moi, je pense qu'il y a des actes préventifs qu'il fallait. Parce que quand on a des appareils qui peuvent détecter l'or à plus de 500 mètres, et on n'a pas des appareils pour pouvoir extraire, pour prévoir des issues de secours, moi, je pense qu'il y a une légèreté ici. Mon intelligence refuse. M'ont fait refuser de croire que ça devait arriver. Ça ne peut pas arriver. Et ça, le temps que ça prend, ça montre qu'il y a de l'inefficacité. On ne veut pas mettre les moyens. La vie, il y a une seule qui vit. Et il va falloir vraiment que la mobilisation soit plus intense que ça, parce qu'il y a toujours l'espoir. et il va falloir aller jusqu'à cette cabane-là.
Ouais, en tout cas, Alpha, j'entends évidemment votre émotion et votre colère, elle est palpable et on la comprend bien évidemment. Il y a 8 personnes en ce moment qui sont entre la vie et la mort à plusieurs centaines de mètres de profondeur. En même temps, il y a une mobilisation du gouvernement. On a vu des ministres aller sur place, le Premier ministre même s'est rendu sur place. Il avait d'ailleurs, c'était il y a un peu moins de 3 semaines, il avait pointé du doigt la responsabilité des propriétaires de la mine. Et on a entendu d'ailleurs ce matin sur notre antenne les familles des mineurs dénoncer la négligence des responsables de la mine. Donc s'il faut, on va dire, critiquer quelqu'un, c'est avant tout effectivement les propriétaires de la mine et non le gouvernement.
Oui, mais c'est ça que je dis, parce que c'est le gouvernement qui, on signe en Afrique, on reste dans des bureaux feutrés et on signe le contrat pour octroyer la mine. Maintenant, c'est responsable dans les travaux. Moi, je pense que de la conception à la finition de la réalisation de ces infrastructures minières, il y a des légèretés. On a laissé les gens faire ce qu'ils veulent. Non, il va falloir que l'État soit présent du début jusqu'à la fin et prévoir des issues. On est au 21e siècle. La technologie nous permet de prévoir des issues de secours.
Oui, sauf que oui, après j'entends Alpha. Alpha, je vous entends, je comprends tout à fait. Après, il y a les aléas naturels et il y a eu ce jour-là une très forte pluie, de violentes pluies qui sont tombées et qui ont inondé le site d'exploitation. Malheureusement, il y avait ces 8 mineurs sur place. Ils sont toujours bloqués en espérant qu'ils soient encore en vie. Alpha, en tout cas, merci infiniment de nous avoir interpellés sur cette actualité qui émeut l'ensemble des Burkinabés. On va terminer avec un autre sujet qui émeut tout un pays, on parle là du Sénégal, c'est le procès hier de 6 sages-femmes de l'hôpital de Louga. Louga, c'est à environ 200 km de Dakar. Ces 6 sages-femmes sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger. On en a beaucoup parlé, notamment ici dans cette émission. Rappelez-vous, il y a un mois, une femme enceinte de 9 mois est décédée après avoir attendu des heures et des heures une césarienne. Cette femme en question, c'est Astou Sokhna. Son nom, évidemment, vous est désormais malheureusement familier. Bonjour Aruna.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Velingara, en Casamance, et vous souhaitiez justement réagir à ce procès.
Bien sûr, moi, comme bon nombre de Sénégalais, attends que la lumière soit faite sur cette affaire qui, je rappelle, avait fait couler beaucoup d'encre au Sénégal et partout ailleurs, inclus dans le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, puisque l'État a tout le courage politique d'initier ce procès. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout pour que la vérité puisse jaillir en quelque sorte et que les responsables soient sanctionnés à l'auteur de leur acte, en quelque sorte, au degré de leur acte.
Quand vous dites, Aruna, quand vous dites les responsables, c'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas de doute, ces 6 sages-femmes sont responsables de la mort d'Astou Sokhna?
Oui, préalablement, oui, on peut dire qu'elles sont responsables, mais il faudra attendre au sortir de ce procès pour savoir véritablement est-ce qu'il y a d'autres responsables qui étaient derrière cette affaire en quelque sorte. Parce qu'il faut savoir que c'est toute une direction qui a été indexée. Parce que je rappelle que le directeur avait été limogé et je pense que maintenant il faut aller jusqu'au bout. Si ça passe au-delà des 600 femmes, il faut citer les responsables qui sont même au niveau
J'entends Aruna, j'entends, et s'il y a eu effectivement faille au niveau du personnel, certainement qu'il y aura sanctions. Mais ce que disent les sages-femmes au Sénégal, c'est qu'elles sont confrontées tous les jours à de vrais problèmes. Il y a des problèmes d'infrastructure, il y a un manque de personnel, un personnel qui n'est pas suffisamment formé. Donc finalement, c'est l'ensemble des hôpitaux publics qui sont pointés, qui est pointé du doigt.
Bien sûr, le mal est partout au niveau de l'hôpital public sénégalais. C'est pour cela que moi, je suis entièrement d'accord avec ce procès. Parce qu'à partir de ce procès, il y aura un tournant décisif dans le traitement des patients au Sénégal. Et peut-être ça va servir une leçon à travers l'Afrique, en quelque sorte. Parce qu'il y a une négligence totale au niveau des services publics africains, en quelque sorte, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit dans les autres lieux de services, en quelque sorte. Je pense que c'est pour cela que moi, je dis que ce procès, voilà, doit servir de leçon à tout un chacun. Et le reste, je pense qu'on n'aura plus
On ne vivra plus de cette situation pareille. Bah,
On l'espère, bien évidemment. En tout cas, le verdict est attendu pour mercredi prochain. Merci Aruna. Bonne journée à Velingara. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. On sera de retour lundi avec vos questions à la rédaction et notre débat du jour qui sera consacré à l'avenir judiciaire de l'ex-président Alpha Condé. Il est poursuivi pour assassinat, acte de torture ou encore enlèvement. Que vous inspire cette annonce du procureur ? Quel avenir pour le président déchu ?